Salut à tous, c'est Vénus Inonde. On se retrouve maintenant, vous êtes habitués, tous les 15 jours. Et comme une fois sur deux, l'émission sera un petit peu spéciale ce soir parce qu'on accueille un invité, notre copain Axel, qui parmi ses multiples talents gratte maintenant du papier. C'est à l'occasion de la sortie de son bouquin qu'on a invité ce soir. Alors, on va pas parler de littérature évidemment parce qu'on va continuer à écouter de la musique et lui aussi va nous en parler évidemment. Salut Axel.
La littérature, c'est de la
merci
musique.
Pour l'invite.
Salut Yo-Yo-Man.
Ouais, salut.
Salut les carisseurs.
Salut à tout le monde. Et eh bien, on vient de commencer la, pour se mettre dans le bain, on vient de commencer l'émission avec les The Fall, le groupe, meilleur groupe de Manchester, je pense.
Et l'indestructible. Merci pour l'invite.
Et l'indestructible groupe de Manchester, parce que commencé en 76, ils sont toujours là. Voilà, voilà. Une chanson qui s'appelait LA, enfin, presque un instrumental.
Ouais. Des petits vocaux, mais.
Bon, non, on est un peu en famille, là, parce que quand même, Axel Verlaine, on t'appelle Axel Desgroisses, mais on t'appelle Axel
Desgroisses.
Desgroisses, pardon. Fait aussi partie de l'association, comme membre fondateur de l'association Vénus Infos. Donc,
et mérite.
Souligner.
Et mérite. Ah, c'est bien de venir et puis de pouvoir foutre un peu la merde avec vous trois, en fait, ça me fait plaisir.
Ouais, ouais, bah, ça change pas trop, hein.
Bah non, non, sauf que là, j'ai le statut d'invité, donc je suis intouchable et c'est très, très bien.
Intouchable, intouchable, attention.
Fais gaffe, t'es en face de trois chauves, là.
Donc, eh ben, tu vas nous parler sûrement de ton bouquin, Balade sauvage.
Balade avec deux L.
Ouais. Ah.
Bah ouais, c'est un livre que j'ai écrit sur la route avec Maître Verlaine, un court roman, une longue nouvelle, et qui mêle une velléité littéraire et un amour de la musique. Voilà, et c'est pour ça je pense que je suis là ce soir, et pas chez Bernard Pivot, c'est parce que ça mêle rock'n'roll et écriture.
On a Axel Kerouac.
Bah, j'allais dire Laurent Pivot, mais... Et oui, bah, Balade sauvage avec deux L, tu es un des premiers à le souligner.
Oh, je pense pas être le seul à avoir remarqué quand même. Alors là, vraiment...
On l'a tous remarqué, mais on n'ose rien dire parce qu'on sait jamais lequel c'est deux L, un L, on sait jamais.
C'est pas une faute d'orthographe. C'est plus le côté, en plus la balade avec deux L, c'est musical et poétique. Et c'est vraiment ce que je voulais donner avec ce petit roman. Voilà. Et je suis ravi de pouvoir passer deux morceaux ce soir dans votre émission.
Deux.
Deux.
Tu dirais,
j'ai pris trois. J'ai pris trois vinyles, mais Olivier m'a dit c'est deux morceaux et donc j'ai failli prendre Phil Collins, un morceau de 18 minutes pour bien vous la mettre. Et puis en fait, non. J'ai pris des choses que je passerai quand on me dira de passer du son.
D'accord, Phil Collins, c'est que pour la maison, quoi.
Et pour Joe, qui écoute l'émission.
Enfin, je pense pas que tu sois dépaysé musicalement, parce que
Non, parce que là,
il
faut
bien,
pas spoiler ce qui va passer ensuite, mais je regarde un peu les vinyles qui sont étalés sur la grande table de Principe Actif et je suis assez content.
Ça va, t'es en terrain connu.
Plutôt. Bon.
Eh ben, on commence tout de suite.
Invité à l'honneur.
Premier morceau, bah, du coup, je vais surprendre tout le monde. Ce sera pas Cure. Ce sera Crocodiles.
Oui, mais il est pas calé, hein, donc on passe pas.
Bah, il est pas calé.
On va le passer après.
Bah, je suis assez d'accord.
Je sais pas pourquoi.
Parce que là, je cherchais du blabla pour vous présenter
non, parce
Crocodiles.
Qu'on avait, on avait calé un petit disque, là, en fait.
Pour celui-là,
toi, bah ouais, c'est celui-là. Ouais.
Faut que je le présente.
Parce que bah tu peux, parce que je pense que c'est quelqu'un qui t'a inspiré
énormément
au niveau littérature, au niveau musique.
En plus, c'est quelqu'un dont je suis en train de lire le roman qui s'appelle L'œil du lézard. L'artiste est Richard L, qui a fait partie de la première mouture de Television, qui a joué brièvement dans les Heartbreakers avec Johnny Thunders, et il paraît qu'il est à l'origine avec Didier Ramon du Chinese
Rock.
Mm-hmm. Bon, après, on ne saura jamais la vérité là-dessus. Et je disais à Laurent tout à l'heure, c'est marrant parce que moi, j'ai ramené au cas où, en spare, comme on dit, le premier album de Richard L. and The Void Out, qui date de 77, et je tombe sur la pochette, c'est à toi le vinyle ?
Ouais, oui.
De Richard L, et c'est vrai qu'elle est beaucoup moins classe. Alors, si vous êtes assez curieux des pochettes, le premier album de Richard L and the Voidod, c'est quand même lui, Richard L, qui ouvre son veston avec son poitrail de jeune quepon, où il y a marqué un petit mot avec l'air arrogant.
Ouais, mais la pochette, elle est pas assez abîmée. C'est une réédition.
Ouais, je l'ai acheté à la Fnac. Et le deuxième album, donc 77, là, et le deuxième album, c'est 82. 82, celui que t'as ramené. Et la pochette, là, il a l'air un peu plus de, bah, je dirais, un espèce de croisement entre Sting et Bruce Springsteen. Et il est assis sur un lit avec sa petite basse dans la main. Et ça fait un peu plus classique. Et j'ai hâte d'écouter parce que j'ai jamais écouté cet album. J'adore Richard L. J'écoutais toutes ses collaborations. Je connais Blank Generation par cœur. Mais j'ai hâte d'écouter ça parce que je connais pas.
On a un peu faussé le truc parce que le morceau que j'ai choisi, c'est une reprise. C'est une reprise des Kings.
Comme quoi, il venait pas de rien quand même.
Comme on disait, 2 minutes.
2 minutes, oui. Un peu amputé, mais bon. Donc, tu disais, c'était une reprise des Kings, c'est ça ?
Ouais, bah, c'est signé Davis, alors bon.
C'est dans leur premier single.
Ok. Donc,
pas mal. Hein.
Ouais. Tu connaissais pas, alors ?
Bah, je connaissais pas, et puis surtout le son comme ça, par rapport à Richard L, c'est assez surprenant. Assez surprenant, mais hyper cool. Hyper cool parce que moi je te dis, j'ai plus le post-télévision, le côté un peu on s'en bat les couilles, on fait des chansons qui sont pas vraiment des chansons et tout, à part Blank Generation qui tient debout, on va dire, par rapport au standard radio.
Mais forcément, parce que
c'est une reprise des Kings, mais.
Elle est calme,
en plus, Blank
Generation.
Elle est super calme, hein, mais y a un truc super tendu derrière qui.
Enfin, Blank Generation, c'est aussi un peu plagié quand même.
C'est une chanson
qui s'appelle Beat Generation. Un mec qui faisait du bebop, je sais plus comment il s'appelle. Et tu regarderas, t'écouteras le refrain, tu verras. C'est un mec qui gueule Beat Generation. Il est un peu. changer le truc, actualiser, on va dire.
Bon, on apprend des trucs, non, hein, Vénus inonde.
T'es pas là pour rien.
Par contre, je me rappelle plus le nom du chanteur, mais bon.
Ouais.
C'est genre 1936 ou un truc comme ça.
J'ai chopé une compile médiathèque qui s'appelle The Roots of Punk. Et c'est 1926, 1945, un truc comme ça. C'est peut-être dedans.
Je sais pas. Je crois que je l'ai prise une fois, mais je me rappelle plus.
Il y a pas mal de bebop. Parce qu'il y a justement. Ouais,
bon. Oui, il y a même des morceaux qui ont été repris par les New York Dolls et tout ça. Strident and Jungle ou des machins. Dans le genre. Comme quoi les punks ne viennent pas de rien. Donc.
Ils viennent de là, ils viennent du blues, du bebop.
Bon, tu disais que tu apprenais des choses, et nous aussi on veut apprendre un petit peu des choses. Tu peux nous dire un petit peu plus des choses sur ton livre peut-être? Parce que moi quand je l'ai lu, j'ai vu ça. Alors, c'est
vous l'avez lu au moins là, tout le monde?
Oui,
l'a lu, là.
Bah, ouais. Quand même.
Sinon je fais comme Dupontel en direct à la télé, t'as pas vu mon film, je me casse.
C'est un petit peu des choses que notre invité Méto, quand il était venu parler de son bouquin aussi, avait dit. J'ai ressenti un petit peu la même chose, moi, comme si quelque part ce bouquin c'était une, on va dire des grands mots, une catharsis ou un truc comme ça. Il y a ça là-dedans ou c'est pas l'idée?
Bah si, mais je pense qu'il y a ça dans à peu près tout ce que je fais, les chansons, les textes, les vidéos ou n'importe quoi. C'est vraiment. Au final, tout tourne autour du même truc. Et ce truc, c'est pas forcément moi, mais c'est ce que je ressens. Et c'est très différent. Et dans ce livre, il y a à la fois la catharsis, et puis il y a aussi le côté un peu autobiographique, sans l'être trop. Et c'est assez rigolo, parce que Évreux, c'est une petite ville, et quand on connaît un peu de monde, on connaît tout le monde. Et la question qui revient le plus, c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? Je ne vous dirai rien. Mais c'est assez agréable, en fait, de pouvoir écrire des trucs qui me sont arrivés ou pas, et de les partager avec les gens, et qu'ils lisent ça tranquille chez eux, dans leur canapé ou dans leur plumard, et voilà. C'est cool. Ah, je vous ai dit, moi j'ai maté toutes les interviews de Pivot, là je suis au taquet. Hein.
Ouais, non, mais c'est bien. Et l'envie d'écrire, ça vient avant l'envie de faire de la musique ou pas?
Bah, ça va ensemble, parce que moi j'ai jamais dissocié les paroles du son. Mais j'ai d'abord écrit, en fait. D'abord écrit parce que avant de à peu près maîtriser un instrument comme maintenant. Il fallait que je m'exprime d'une certaine manière. J'ai toujours dessiné et peint comme une grosse merde. D'ailleurs, j'attends de toi, Laurent, que tu me files quelques cours.
Ouais,
mais l'écriture, c'est quand même le truc le plus évident. À partir du moment où tu apprends à lire et à écrire au sens scolaire du terme, et tu t'écris plein de choses tout le temps. Et puis un jour, tu découvres le rock'n'roll et tu dis « Putain, ça me fait bouger, c'est énorme, ça me fait voyager. » Et puis, t'oublies pas qu'il y a des paroles derrière et qu'il faut bien les sortir. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à composer, en fait, je composais et j'écrivais les textes en même temps, parce que pour moi, c'est indissociable. T'avais une question?
Oui, parce que dans le rock'n'roll, c'est pas forcément justement ce qui est important, le texte, parce qu'il y a plein de...
Comment ça?
Enfin, dans les non, ça arrive dans les années 60, ça, où il y a des gens qui commencent à se prendre au sérieux, mais sinon avant, enfin dans le rock and roll de base, c'est pas vraiment.
On peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça, c'est Robert Smith. Je cite pour la première fois.
Ça doit être mon côté chanson française. Pour moi, les textes, c'est vachement important.
Ouais, puis même les Anglais.
Genre une chanson comme Surfing Bird ou des choses comme ça, il y a rien, quoi. Enfin, c'est pas...
Bah, il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour, de la dérision, et je pense que c'est ce qui manque à la chanson française, à Metro Verlaine et à mon bouquin. C'est un peu d'humour. Mais si vous avez pas envie de rigoler, c'est vachement bien.
Dans ta façon d'écrire, on est très proche du rock quand même, parce qu'on sent l'urgence. Ce sont des phrases très courtes, enfin dans le style, je parle.
Ouais,
c'est ce que j'aime bien, je sais pas, donc de tirer les pompes, mais j'ai bien aimé aussi ce côté des petites phrases très courtes. J'aime bien les écrivains qui écrivent comme ça, en général.
Puis, enfin, pour moi, il y a un auteur qui l'a fait mieux que personne, c'est William Burroughs, et il a quand même écrit des romans terribles comme la Machine Molle, pour pas citer Junkie, mais La Machine Molle, c'est quand même sur 250 pages un ensemble de toutes petites phrases.
Moi, c'était plus un poète
qui veulent
Burrow que Ouais. Écrivain, enfin qu'un romancier en tout cas.
Mais je pense qu'il faut aussi casser le côté roman en fait. C'est ça qui est... mais c'est comme le punk. Là on est sur le punk, c'est comme le punk par rapport à la musique et le rock, il faut casser quelque chose.
Non mais il y a des romanciers, c'est pour ça que j'y reviens, qui écrivent avec des phrases très courtes comme Modiano, j'adore. Pour moi, c'est vraiment la référence de la littérature française et lui c'est que son écriture elle est rapide. Qu'il est incapable de dire quand il parle, d'ailleurs il s'embrouille, mais pas quand il écrit. Quand il écrit, c'est direct.
Bah, c'est comme une chanson, quoi.
Ouais, ouais.
C'est 2 minutes 30 et il faut aller au bout.
La façon d'écrire des chansons, quoi.
2:30 et il faut aller au bout.
Ça se rejoint, quoi.
Comme une chanson ?
Mais laquelle ?
Comme une chanson, mais laquelle ? Eh bah, ben, je sais pas, une chanson punk. Hein. Un hymne punk qui va. Qui dit bien ce qu'il veut dire, parce qu'il dit, en gros qu'en fait. Enfin, le punk, c'est fait pour les jeunes, pour les jeunes. Enfin, faut qu'ils se réveillent, les jeunes, et surtout les jeunes blancs, d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de.
C'est White Riot, non?
Ouais, il n'y a pas beaucoup de noirs, il me semble, dans le punk.
Il y en a. White Fright, je dis un petit mot quand même parce que c'est un morceau pour lequel il y avait eu une sorte de début de polémique parce qu'à cette époque, le punk c'était un petit peu le début de certaines dérives dans le street punk. Je pense à Sham 69 après, des morceaux comme ça. Et certains avaient dit White Fright, c'est raciste ou quoi. Et en fait, ce morceau, il l'avait écrit pour dire que c'était l'époque où il y avait des révoltes des Noirs, en particulier à Brixton, que fréquentaient bien les Clash. Et eux disaient que la jeunesse blanche aussi devait se révolter, en fait. Oui. Donc, il n'y avait pas, en fait, du tout de malentendu derrière les paroles de cette chanson.
Il y en a plein d'autres, après, qui ont interprété des paroles.
Et puis, le National Front avait aussi repris la chanson. À un moment, ils faisaient la queue aux sorties de concerts des Clash pour recruter, voilà, comme avec les Cure. Les Cure et Killing an Arab. Les mecs du National Front ou Front National en français sont depuis les années 70 des gros sacs à merde qui recrutent au concert punk. Ne vous laissez pas baiser, ouvrez une 8-6 et jetez-leur à la gueule parce que c'est une bière de merde. Voilà.
Ok, donc on continue ton petit voyage sur la route ou ailleurs et puis dans les morceaux et les groupes que tu aimes bien, je crois qu'il y en a un qui te tient à cœur, c'est ça ?
Bah ouais, c'est un groupe de Californie, un groupe de San Diego, c'est le groupe Crocodiles. Donc c'est un groupe que j'ai découvert en 2008 parce que j'ai eu l'occasion d'aller à une émission de Canal+. C'était l'album de la semaine à l'époque avec c'est le chanteur de Dead Mantra. Qu'on a fait jouer avec Venus in Fuzz à l'abordage. Paul de Den Mantra qui m'a appelé un jour et qui m'a dit bah écoute, il y a un groupe qui est super bien, un peu à la Echo and the Bunnymen mais en plus vénère, qui en joue mieux. À l'album de la semaine.
En mieux, tu voulais dire.
On en parlera plus tard. Et je suis allé avec lui et en fait, j'ai regardé le concert et sur le coup, j'ai pas tout compris. Parce que les morceaux étaient ultra pop électrifiés pour le coup, c'était vraiment des gros sons de guitare et tout. Mais les chansons pour moi c'était Echo and the Bunnymen ou les Beatles, tu vois, il y avait vraiment des mélodies, il y avait des ponts, des passages au refrain et tout. Et en fait j'ai adoré ce groupe et puis j'ai eu l'occasion de les revoir à Rock in the Barn. Il y a 2-3 ans, une année où on a joué avec Metro Verlaine. Et j'ai rencontré après les Crocodiles grâce à Principe Actif. Là, les gars, je fais un peu de
102.4 et 95.4.
Et je suis devenu assez pote avec Charlie, le guitariste. Et il s'est avéré qu'il est venu produire le premier album de Metro. Mais il n'empêche qu'avant... En étant son ami, je reste un grand fan du groupe. Et le morceau que je vais passer, c'est Teardrop Guitar. C'est sur l'album Cream of Passion. Et pour moi, c'est un des meilleurs morceaux de Crocodiles.
Et tu disais, oui, l'album de la semaine, c'était lequel à cette époque-là? C'était celui avec le mec
Avec la queue de cheval.
Ah.
Voilà.
Moi, j'ai découvert Crocodiles au Transmusical.
Oui, tu m'avais raconté, ouais. Et j'en ai reparlé. Et bah oui, c'était juste. En fait, ils ont joué parce que j'en ai parlé avec Charlie. Ils ont joué à l'album de la semaine grâce au Transmusical où t'es allé.
Voilà, juste après Rocky Harrison.
Et il y a une petite anecdote. Petite anecdote assez marrante, c'est que ils sont arrivés à Rennes pour les Trans où t'étais. Et en fait, les Bretons ont quand même la réputation de picoler un petit peu. Et Jean-Louis Brossard est venu dans leur loge avec une bouteille de Ricard. Il n'aurait pas expliqué ce que c'était en fait. Et il a vu un godet, puis il est parti, il a posé la bouteille de Ricard. Et les mecs croyaient que le Ricard, c'était, tu sais, comme le whisky, quoi. On s'en servait, ça avait la même couleur et tout. Et avant de monter sur scène au concert où tu étais au Transmusical, ils se sont claqués la bouteille de Ricard sans mettre d'eau dedans. C'est parce qu'ils croyaient que c'était un alcool français et qu'il fallait le boire pur.
Mais ça n'empêche que c'était un super concert, parce que je connaissais pas, et j'ai été vraiment...
On pourrait remercier Ricard pour le très bon concert des Crocodiles.
C'était vraiment excellent. Excellent chanteur. Et puis, en parlant de découverte, on a aussi Dan Brody, il y a pas longtemps, qui a découvert le Calva au MacLeod. Il s'attendait pas
mais
à
y a
ça.
Mais il y a des Ricains qui ne boivent comme ça, le Ricard, en fait.
Ah bah pour le coup, c'était
juste
une
avec des juste avec des glaçons...
Ils n'étaient pas au courant.
Ils s'en servent comme digestif, en fait.
Ils sont cons, c'est Ricard. C'était Crocodiles et Teardrop Guitar.
J'aime vraiment bien.
Ouais, c'est classe. Ouais, c'est classe comme morceau.
Ouais, puis le guitariste en plus, il joue bien à la pétanque.
Et ça, c'est classe aussi. Donc, ça,
c'est mieux que de bien jouer à la guitare visible.
On a les références qu'on peut. Et donc là, on va revenir en Angleterre, en fait, parce que selon ton livre, on parle beaucoup d'Angleterre, il me semble. Le héros, c'est un peu un fantasme pour lui d'aller en Angleterre. Et d'aller là-bas. Et c'est aussi un fantasme pour toi ou c'est, je pense que t'es quand même assez accroché.
Bah, moi,
j'ai la musique anglaise, je dirais pas au foot anglais, mais.
Si, les deux, tu peux le dire. J'adore l'Angleterre. Après, en fait, dans le livre, j'ai voulu essayer de retranscrire un peu l'amour que j'avais pour l'Angleterre et notamment pour Londres. Et puis, de tous les voyages que j'avais fait là-bas, tirer une espèce d'histoire à partir de ça. Je me suis permis de parler de Camden Town, même si c'est pas le Camden Town que vous avez pu connaître, même à l'aube des années 90. C'est devenu un peu plus touristique et tout. Mais je voulais aussi que ça parle aux gens, tu vois, tous ces symboles, toutes ces références et tout. Et pour moi, ça restera la ville des, enfin le quartier des Clash, des Libertines, plus proche de moi que d'autres. Et Amy Winehouse aussi. Enfin, tu vois, c'est des quartiers qui ont une âme. Et c'est ça que je voulais transmettre. Et oui, Manchester United est le meilleur club de foot du monde. Si c'est ce que tu essaies de me faire dire.
Ah non, non.
Tu peux y aller, on n'y connaît rien en foot, nous.
Mais le rock anglais, on a eu des longues discussions avec vous. Le punk anglais.
Surtout en ce moment, franchement.
Le punk anglais comparé au punk américain, il y a déjà dans le son d'énormes différences. Et puis il y a une espèce d'urgence sociale qu'il y a dans les Clash avec White Riot ou. Tu parlais tout à l'heure de Shame 69 et ce genre de groupe, qui a pas effectivement chez Richard L, même chez les Ramones, ou ce genre de groupe, quoi. Bah, ou c'est plus.
Ils avaient pas Thatcher.
Arty, ouais. Si je puis me permettre.
Ouais, c'est pas le même contexte, intéressant.
Ouais, mais il y avait Reagan, quoi. C'est pas non plus Obama. Enfin, il y avait quelque chose, le Bowery et puis le CBGB, c'était aussi un quartier pourri, comme là où jouaient les Clash et les Pistols. C'est juste qu'il y a une grande différence, je pense, entre les États-Unis et l'Angleterre. C'est qu'on peut se rendre compte d'une ville comme Londres, de ce qu'on peut ressentir là-bas. New York, c'est quand même immense. Et puis les États-Unis, un État, c'est un pays d'Europe, quoi. Enfin, il faut aussi... on parlait de Californie et côte Est. Il y a des vraies différences, je pense.
Oui, je pense qu'il y a des ricains qui ne savent même pas que New York existe.
Si tu parles de Divo, je suis assez d'accord avec toi.
Non. Donc, on revient en Angleterre avec un groupe qu'on passe pas souvent, je crois, qui s'appelle les Swell Maps. Et qui, là, c'est un album qui date de 77, pardon. Donc, c'est en pleine explosion punk.
Ça peut donner des idées à certains. Est-ce qu'on peut encore trouver de morceaux pour la soirée du 8,
hein? Oui, parce que nous vous rappelons que Venus in Foss va faire une soirée au club du Cube le 8 décembre. Où il y aura une petite quinzaine de groupes qui feront des reprises de chansons punk, de la première vague punk, c'est-à-dire 77-78. Attention à ceux qui débordent.
19, t'as dit.
Ça fait 19, pardon.
C'est vrai que ça fait 40 ans, quoi.
C'est pas simple à définir, hein. On s'en est rendu compte. On pensait pas ça, nous, au départ, quand on a eu cette idée il y a quelques mois, que ça allait être si compliqué.
Compliqué.
Déjà, on n'est pas tous sur le punk, on n'est pas tous d'accord sur les origines du punk. Alors en plus, quand il s'agit de dater, alors là, ça complique encore un peu plus les choses.
Va y avoir un débat parce que on peut pas rester là.
Ça va être trop long.
Ouais, tu parlais d'un morceau des années 30 tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a les années 60, il y a les choses très punk aussi. Ça, donc, bon.
Compile Nuggets et compagnie.
Enfin, pour moi, l'idée, de cette soirée-là, c'était juste pointer l'érosion, enfin l'arrivée du punk anglais entre 77-79 pointe. Voilà. Sinon après, si on commence à extrapoler sur le punk, on peut démarrer dans le début des années 70.
Oui, mais là, comme
là c'était pas le but. On avait mis des dates, c'était bien précis, et puis c'était plutôt axé sur l'Angleterre.
Et c'est là.
Pour moi, le punk, ça vient pas de l'Angleterre. Sinon, ça peut durer longtemps, la discussion.
Mais, c'est pour ça que nous, on a pris un morceau australien, par exemple.
Et comme on fête les 40 ans, façon, alors, peut-être on ne pouvait pas aller chercher trop loin.
Punk est anglaise. Voilà, c'est tout ce qu'on peut. Mais musicalement, non.
Ouais, ils se sont inspirés des situationnistes aussi. Tout ça. Donc,
Richard L.
On peut aller chercher loin.
Richard L. Il y a quand même pour beaucoup sur l'attitude punk.
Ah bah et puis sur le look quoi.
Bah oui, voilà.
Il a un peu tout fait hein, parce que Malcolm McLaren il s'est pas
bien sûr
trop foulé.
Bah il a récupéré ce qu'il voyait dans la rue comme d'autres.
Il a habillé les Dolls en vinyle rouge et puis il a regardé Richard L. s'épanouir et s'est dit putain j'ai loupé un truc.
Enfin les Dolls avec en vinyle rouge avec des marteaux et faucilles, c'était pas
la meilleure.
C'est pas trop et ça terrible.
Non, puis d'où l'importance
des textes. Il pensait conquérir l'Angleterre avec ça, mais
c'est quand même chez les Anglais qu'on a entendu des textes un peu plus révolutionnaires, un peu plus anarchistes, etc. C'est à ce moment-là, c'est pour ça que c'est lié au mouvement punk anglais.
Bon, donc on en revient au Swell Maps.
Ouais, les pauvres, on les a oubliés là.
Non, ils sont au chaud là. C'est une chanson très courte en fait. C'est un groupe qui est pas vraiment punk, on peut pas dire, mais qui est assez bordélique, qui fait des choses, enfin à l'époque avec fait même des instrumentaux avec des bouts de bandes, des trucs passés à l'envers, des bruitages de rue et tout ça. Et c'est assez étonnant pour l'époque et c'est assez délirant pour des Anglais, c'est assez délirant quand même. Si, je vous assure.
Il y a même les paroles au milieu de l'album.
Et il y a des gens qui sont devenus un peu connus après. Il y avait Peace on Track et Nicky Sodon et tout, qui sont deux frangins qui étaient à la base de ce groupe. Et donc, on va écouter je sais plus quoi. Between my eyes and I never knew about it. No more ways to excavate jurors. No two ways about it. I think that's all there is to say. Nothing more. Oh no, go away and play. A little love is today.
Ah ouais, ce fut bref.
Donc c'était Vertical Slum.
Voilà.
On s'est laissé surprendre. Bon,
bah oui, mais c'était.
Je vous avais dit une petite chanson, quoi.
C'était ça aussi, le punk. Hein, les morceaux faisaient rarement 10 minutes, quand même. Donc.
Ouais, parce que comme ça, ça cassait un peu toutes les. Tout ce qui avait été à la mode dans le début des années 70, quoi. Tout ce qui était rock progressif et tout. Où là, les musiciens, ils se perdaient. Non. Incroyable. On arrivait là.
Bon, alors.
Axel, au lieu de t'endormir là dans ton.
Encore un petit mot sur ton bouquin, peut-être. T'es venu quand même pour ça, pour la musique, mais pas que.
Ah ouais, j'ai tout vendu, donc j'ai plus rien à vous dire.
Ok, bon, salut Axel.
Ça, c'est punk.
T'as tout vendu, ça a peut-être été réédité, non?
Non, mais c'est une blague, c'est.
Non, on te croit, non?
Attends, un degré d'arrogance pareil, tu réagis même pas.
Non, on en a vu d'autres.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Et en même temps, Olivier, c'est toi, Laurent, qui disais tout à l'heure, le punk n'est pas venu d'Angleterre.
Bah,
après, je sais pas ce que vous pensez de ce genre d'artiste, genre Patti Smith. Tu vois, qui a fait un peu de bien à toute cette scène et qui a été considéré après par genre les Pistols ou les Clash comme la marraine du mouvement. Il y a des petites anecdotes sympas, genre elle avait acheté des fringues à Paul Simonon Et puis en fait, elle se rend compte quand il la ramène dans le squat qu'il a rien à bouffer. Et puis il lui dit mais tu pouvais pas me dire que fallait t'acheter de la bouffe. Et le mec lui répond ouais mais si je mange et que je m'habille mal, j'aurais l'air d'un con de hippie. Donc moi, je trouve ça terrible. Mais il y a effectivement aussi des morceaux, on parle de Television, Patti Smith, tu vois, qui durent un peu plus de 2 minutes 30.
Oui, d'ailleurs, qui sont des expérimentations. Qui fait 6 minutes.
Et qui, Television, enfin, je sais, il y a des balles, hein, mais je sais pas où on peut classer un groupe comme Television, qui est quand même, on parlait de Richard L., Tom Verlaine. Tu vois, c'est pas des brûlots
ouais,
hyper rapides.
Pour moi,
tout,
c'est pas l'image que j'ai du punk, c'est sûr.
Effectivement, ouais. Effectivement. Et néanmoins, ils ont fait énormément de bien. Ils ont ouvert le CBGB à autre chose que country, blues,
bluegrass.
Bluegrass, voilà. C'est une question ouverte.
Ouais, mais à l'époque, t'avais en même temps les Ramones au CBGB, quoi.
Un petit la... poil après. Mais c'est bien aussi de confronter.
Bar, tout ça. Mais
d'ailleurs, ouais, on va vous laisser parce qu'on va aller au bar discuter de tout ça. Non, mais c'est intéressant aussi sur le. Tu parlais Olivier de faire un débat après le concert de organisé par
une. En fait, va peut-être y avoir.
Moi, je trouve
le lendemain
bien,
du 8, va peut-être y avoir une projection d'un film et puis.
Parce que j'entends
suivi d'un débat comme.
Merde, j'entends beaucoup de connaissances. C'est quoi le punk en fait, tu vois?
Ouais, mais
c'est quoi le punk?
Tu parlais des groupes comme Television, mais justement pour moi, enfin c'est juste mon avis, mais pour les groupes qui sont souvent inclassables musicalement, ce sont ceux qui restent. Souvent.
Mais c'est pour ça que je t'aime bien. Et tu vois, là, je vois dans tes mains, j'espère qu'il y aura le temps de le placer, mais...
Ça va être court.
Je vois un autre groupe anglais, là, pour moi, c'est du punk sans être musicalement l'archétype du punk à la Ramones ou à la Damned, New Rose 76, comme dirait Vincent Connetel et compagnie. Enfin, tu vois, c'est autre chose, mais... qu'est-ce que le punk? Et c'est là où l'idée d'organiser un débat en plus de la soirée du 8, moi je trouve ça hyper bien. Mais il faut que ça frite. Hein.
Enfin, bah oui, c'est ce que j'allais dire.
Il y a des chances.
Par contre, il y a un risque. Bon, on va s'écouter un petit truc. Parce que j'ai fait une rubrique il y a deux semaines. Non, il y a un mois maintenant.
Oh là là.
Parce que les émissions, c'est toutes les deux semaines, mais la rubrique, c'est une fois sur deux. Donc, voilà,
ça sera bientôt les 40 ans de Vénus.
Sur les concerts prépassés. Et donc, j'en ai trouvé un, c'est un groupe de post-punk, en fait.
Oh merde.
Oh putain. Gang of Four?
Non. C'est The Intelligence. Je sais pas si vous étiez à ce concert-là, c'était à l'abordage. Parce que j'ai choisi un concert de l'abordage, parce que tu parles un peu de l'abordage quand même dans ton bouquin. Et je pense que là, ça a vraiment été important pour toi. C'est pas une référence.
Ah bah non, mais j'ai tout appris là-bas.
Là, on sait que c'est, là, on sait que c'est vrai, par contre. S'il y a des
là,
choses,
vrai,
s'il y a
ouais.
des choses, on sait pas trop. Là, on sait que bon.
Là, c'est vrai.
Je me rappelle pas t'y avoir vu, mais bon.
Moi non plus, mais t'avais peut-être les cheveux longs à l'époque.
Ah non. ça faisait longtemps déjà que c'était parti.
Mais je suis arrivé en pleine période des groupes en The Rags.
Et bah, The Intelligence.
Bah voilà.
Voilà. Et le concert, c'était,
mais j'avais peut-être pas d'argent de poche, mon petit.
C'était en 2009. C'était au club. C'était pas
c'était
trop cher
au club.
En club. Et c'était vachement bien. Et c'était leur quatrième album, je crois. Ils ont sorti 9, il me semble. Et c'était, celui-là avait été édité sur Born Bad. Donc c'est pour ça aussi qu'ils étaient là, quoi.
Les débuts de Born Bad?
Ouais, c'était dans les débuts.
Quand c'était pas encore trop hype.
Quoi? Bah non, c'était 2009.
Ok. Non, c'est une vraie question. Il n'y avait pas d'ironie, il n'y avait rien.
Bah oui, maintenant ils se prennent pour le seul label indépendant français. Mais... Et ça va faire plaisir à Monsieur Vince. Bah, d'habitude, les Intelligence sont sur un label américain qui s'appelle In The Red.
Yeah.
Donc, où il y a plein de gens qu'on aime bien. Et donc, ce concert était vachement bien. Moi, je connaissais pas du tout. Et c'était ça aussi. Bah, l'abordage, c'était ça. Il y avait des trucs. Moi, j'attendais la programmation. Et des fois, il y avait des trucs. Ah, putain, il passe ça. Je connaissais. J'étais super content. Et des fois, il y avait des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, moi, j'ai découvert des trucs comme ça. Bah, The Intelligence, The Ossies aussi, je ne connaissais pas. La première fois qu'ils sont passés à l'abordage, je suis arrivé. Il y avait des copains de Bernier qui me disent ah, tu connais pas? Bah, non. C'est le groupe
pourtant,
préféré de.
C'est Bernier.
C'est le groupe préféré de Jim Jarmusch, machin. Bah, bon, bah, on va écouter. Et puis là, on était au bar. C'est ça, Laurent.
Oui, sûrement.
On devait être au bar et si on a entendu les premières mesures.
Tu t'es pas foulé, là, parce que c'était forcément au bar.
Je sais pas. Non, on n'a pas dû oublier notre bière quand même, mais on a été direct dans la salle. Et donc, The Intelligence, bah, ce qui était bien c'est que, au club, c'est que le bar était dans la salle, donc là, on n'a pas de problème.
Quand le lendemain, je retrouvais un billet dans ma poche, c'est que le concert était bon.
Ouais, c'est un peu ça.
Bah oui.
Quand il nous restait l'argent le lendemain, c'est que le concert était bon et on était resté devant.
Ouais, on pouvait pas aller chercher à boire.
Bon, tu nous fais envie, là.
Bon, allez.
Binic, il y a 5 ans.
Ah non, pas Binic, non, là, c'était l'abordage.
C'était en 2009.
À l'abordage,
2009.
Passé à Binic l'année dernière.
2009 en abordage.
Ouais, l'année dernière à Binic, mais.
Exactement, le 2 mai 2009.
2009 Je disais 5-6 ans, oh là. J'arrive plus avec les.
Ça passe vite, mon gars. Et donc, oui, l'abordage, bah, c'est là qu'on s'est.
C'était l'époque où il y avait un groupe aussi qui était intéressant, à la même époque. Pas longtemps après, les Screaming Trees, ça te dit quelque chose, tu te souviens ça?
Ils se dépassaient à l'abordage?
Bah oui, à Bordage Club.
Ah bah là, t'es sûr de toi?
Oui.
C'est le groupe de Mark Ladengan.
Non, alors.
Une batteuse.
Screaming Trees.
T'avais peut-être loupé ton train ce jour-là.
Ouais, ça m'est arrivé aussi. D'écouter le concert depuis le train, mais c'est pas terrible en fait. Je me rappelle d'être assez bloqué alors que le concert était.
Bah.
C'était commencé, mais bon.
Parce qu'on parlait du punk alors. Je m'en sais.
Bah, puisqu'on parle du punk, on va passer un petit truc, je pense que ça va en faire parler.
Bah, des jeunes punk. Enfin, des jeunes.
Ça, on va en faire parler quelqu'un.
Aussi jeune
quelques-uns, ça. Pardon.
Ouais, on sent que la soirée du 8 se rapproche, non?
Ouais.
Je suis surpris que tu nous mettes un morceau pareil.
Mais pourquoi?
Monsieur l'écarisseur.
Bon, je pense que tout le monde a reconnu, parce qu'il y a quand même une. Rien que la voix, déjà.
Ouais.
Une voix inimitable, je pense.
Celle de Laurent Plaisant, c'est des gueules d'Anne Roméo.
Tiens, bah oui.
Il y a concert,
vendredi
bientôt.
Vendredi soir, MacLeod, tiens.
Ah oui, au fait, passage. Oui, merci.
Un peu de promo.
Oui, oui. Mais bon, attends, quand tu entendras Laurent reprendre les dames, tu vas être surpris. Hein.
Mais je serai pas là le 8. Mais je veux que tout soit filmé. Je veux tout voir. Je veux tout.
Pour en revenir au bouquin, là, t'es reparti sur un autre ou pas?
Ouais. Moi, j'ai commencé à écrire des trucs. Voilà.
Voilà, t'attaques Manchester, là, après Londres.
Je remonte. Ouais. Ça va finir en Antarctique. Ou l'Arctique, mais comme la Terre est ronde, on s'en fout, on fera le tour.
Fais gaffe, tu risques de rencontrer un hébreuïsien là-haut. Et...
Si c'est Franck Dubois, j'arrête d'écrire. Et du coup, je peux présenter le dernier son. C'est pas un disque que j'avais emmené. J'avais prévu, comme d'habitude, de vous faire chier avec les Cures. J'avais pris Pornographie ou Richard L. Je savais pas, mais comme t'en aimes.
Tu fais pas chier avec les Cures. Hein.
Et je suis tombé sur les vinyles de Laurent. Et c'est un groupe qu'on adore tous les deux depuis un petit bout de temps et qui commence à être populaire. C'est Sleaford Mods. Ils sont pas mods, ils viennent pas de Sleaford's. C'est plus du punk hip-hop où il y a un mec qui balance des sons enregistrés en studio sur un ordinateur. Il est en fond de salle, il souffle des canettes, il fume des spliffs et il danse de manière un peu loufoque. Et il y a un vrai frontman à la John Lydon, Johnny Rotten ou Marky Smith, tu vois, qui vient devant et qui crache ses paroles mi-rap, mi-quepon.
Enfin, oui, c'est carrément quepon, la façon dont il chante.
C'est des grosses satires de la société. C'est des gros, je vais pas dire satire punk et Venus in Fuzz en même temps, on en parlera plus tard. Mais c'est des gros brûlots, sur société anglaise.
Le chanteur, c'est pas un petit jeune, c'est un mec.
Ah bah, carrément, il a quoi, 40-45 ans. Il y a eu cet été sur Arte. Le cycle, tu sais, des documentaires, machin et tout. Et on le voit à un moment, juste l'anecdote à la con, il est à Glastonbury, il joue sur une scène à Glastonbury avec son pote. Et il raconte, en fait, il est dans les loges et il dit, bah là, je viens de croiser 10 groupes de trous du cul de 20 ans qui viennent de me dire, qu'est-ce que tu fous là, t'as 45 ans, dégage, t'as rien à branler ici, t'as un effet de mode et tout. Mais en fait, quand t'écoutes la musique, tu te dis que tous les temples et autres conneries psychées pour branleurs qui vont à Rock in the Barn, bah, il les emmerde. Voilà.
Moi, j'aime bien la musique psychée.
Moi, j'aime bien Rock in the Barn.
Moi, j'aime bien les branleurs.
Olivier, il aime bien Temples, donc tout le monde y retrouve.
Et d'ailleurs, je suis très moulot encore là, je crois que c'est très moulot. La première fois que j'ai écouté Sleaford Mods, je crois que c'est toi qui m'as fait écouter.
Ah, mais il avait écouté la Miami Punk
il y a au moins 2 ans. Il y a 2 ans où on trouvait pas un disque de Sleaford Mods.
Moi, je les ai découverts sur Tracks.
J'ai été obligé de le commander en Angleterre parce que vraiment, ça me plaisait. Cet album-là,
moi, c'était un Tracks spécial Sleaford Mods. Mods, tu vois, Sleaford et tout. Et les connards viennent de Nottingham. Et en fait, ils déboîtent, quoi. Ils déboîtent. Et ils ont très peu joué en France. Ils ont fait le truc anime This Is Not a Love Song. Ils ont joué à la Villette, là, au Villette Sonic. Et si ils pouvaient faire une salle genre, je sais pas, Maroquinerie, Cigale ou Trabendo, je pense qu'on irait ensemble. Trabendo, ça serait pas mal. Bon. Sleaford Mods et le morceau, c'est Tweet, Tweet, Tweet.
Le meilleur.
Human race. This is a human race. UKIP and your disgrace. Chopped heads on London streets. All you zombies, tweet, tweet, tweet. This is a human race. UKIP and your disgrace. Chopped heads on London streets. All you zombies, tweet, tweet, tweet.
Des masses de temps, je vous invite à écouter Steve Hornmud chez vous parce que c'est quand même un groupe extra. Merci pour l'invite, les gars.
On n'est pas à la factory, là.
Moi, je vous inviterai pas, mais merci pour l'invite.
Il est chez lui, là. C'est vrai que Axel fait aussi en alternance avec Vénus Inonde son émission. Ça s'appelle toujours La Factory.
Ouais.
T'es tout seul maintenant.
Ouais.
Ouais. Voilà. Tranquille. Tous les mardis soirs aussi à
9h30. Parce que j'en avais marre de Joe et de son rap progressif à la con.
Bah oui, il y a eu du licenciement.
Mais merci, c'était très cool.
Ouais, on va finir en annonçant le prochain concert Venus in Fuzz. Donc bah, on se retrouve chez Chris, on commence à en avoir l'habitude. Très bientôt, c'est le dimanche,
19 novembre. Un dimanche.
Un dimanche, bah ouais.
À 18h30, ouais.
Ça vous changera.
À l'heure de l'apéro, quoi.
Ouais.
Et puis, faut pas faire de bruit trop tard. Là.
Ouais, comme on.
Le dimanche soir.
La prochaine émission sera juste après. On vous annoncera d'autres concerts.
Je me répète, mais je m'en fous. J'ai pris mon lundi.
mais ne ratez pas celui-là avec les Midnight.
C'est mon anniversaire le 19 novembre.
Scavengers. Ah bon, on s'écoutera les Stephen Matt ensemble.
Midnight Scavengers, ouais. Donc, c'est l'anniversaire de Laurent, comme il vient de le dire. Et c'est aussi l'anniversaire de Vénus, parce que, bah là, au mois de novembre, on va avoir nos deux petites années.
Mais Laurent, ouais. Tu es Vénus in
Voilà, et donc, les Midnight Scavengers, bah, qui sont en train de tourner en ce moment. C'est un groupe, à la base de ce groupe, il y a un couple d'Australiens et puis qui ont été rejoints par des Berlinois, Français et d'autres. Voilà, ils seront là pour vous.
Donc salut, on vous attend dimanche 19 et puis on vous dit dans 15 jours pour Vénus in Onde sur Principe Actif.
Pleasure in the travel was stepping in. Sweet clean words like how's it pretty? How's it going from within? Most can be tied from the underground scene. Pretty unstable with a thing. I'm your mentor, you are the victim. You show me, I'll make you dream. That's him. To the Maryland, hold her closer, hold her tighter, hold her safer. She might scream, district flames got us stranded. Hold me tired, do the thing. I touch the light in the blink of an eye. I use my seat and I begin to squirm. That's enough. That's enough.
devil strikes in high precision with an hint of the thing. Bullets on proof in the staggering gardens. The fiend, Maryland. Supremacy noise, such a card scene. Suppressor noise, so big you're in. I shovel a hole into the stronghold to rim. Shut the fuck up with a